Les Nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Lorsqu'il était arrivé aux États-Unis, il avait épousé l'idée de la démocratie américaine. D'une façon très critique, cela dit, en révélant tous les fascismes qu'elle dissimulait. Ses films en témoignaient. Il y avait plus de surcharge dans la période allemande, l'expressionnisme, que dans les films tournés aux États-Unis, où les effets étaient gommés, dissimulés. De quoi parlait-on le 15 mai 1987 dans les Nuits magnétiques? Mais de qui, surtout? De Fritz Lang, et du Fritz Lang américain. Alors, inférieur ou supérieur au Fritz Lang allemand? Voilà bien des questions d'une époque. Quoi qu'il en soit, comme l'on sait, Fritz Lang plaisait à la nouvelle vague. Fritz Lang, l'homme de passage.
La mise en scène, c'était pour nous un concept et non un slogan. Nous refusions le mot de réalisation parce que nous pensions que le travail de mise en scène cinématographique n'était pas une question de réalisation, mais aussi de conception. Mise en scène est un terme qui convient mal dans la mesure où il vient du théâtre et qui est juste dans la mesure où il désigne une organisation de l'espace et du temps. Les films de Fritz Lang offrent l'exemple le plus précis, la conception la plus haute, la plus ambitieuse de la mise en scène. Eric Rohmer.
C'est d'après le roman d'Alberto Moravia. Il y a Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Il y a aussi Jacques Palance et Georges Lamol. Et Fritz Lang. Les prises de vue sont de Raoul Coutard. Georges Delerue a écrit la musique. Et le son a été enregistré par William Sibel.
Fritz Lang, l'homme des passages, par Annie Flavel et Bertrand Delay.
Le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Le mépris est l'histoire de ce monde.
Lang fait partie des cinéastes qui ont profondément marqué la jeune génération de l'époque.
Jean Doucet.
Pour deux raisons. Bon, la première, parce qu'il était évident que son œuvre... était une grande œuvre, bon. Mais surtout, il y a quand même la politique des auteurs qui était sous-jacente, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas pourquoi quelqu'un qui avait réussi des chefs-d'œuvre comme Metropolis, comme M, etc., serait devenu en Amérique, par un tour de passe-passe, un petit réalisateur sans envergure et sans importance. Et de ce point de vue, la première fonction des Cahiers du cinéma, enfin de l'équipe future de la Nouvelle Vague, ça a été de défendre le Lang américain en montrant que le Lang américain n'était pas inférieur au Lang allemand, mais qu'au contraire, il était totalement supérieur. Ce qui était vraiment à ce moment-là presque une idée scandaleuse dans le monde cinéphilique et de la critique de cinéma. Donc Lang a permis tout autant en fait que Hitchcock ou Hawks à définir ce qu'on peut appeler la spécificité cinématographique, mais qui était prise au pied de la lettre chez les gens de Velvang, comme justement la conception même de la mise en scène. C'est-à-dire, on a commencé à ce moment-là à considérer que l'écriture était le sens, et que le sens n'était pas dans le scénario. Donc Lang a été l'exemple parfait, et évidemment défendre des films comme Blue Gardenia ou Cap Poignard ou même Big Hit, c'est-à-dire Règlement de compte, ou les westerns de Lang, L'Ange démoni, c'était manifester quand même un souci de la grandeur d'un cinéaste par son écriture. Quand est arrivée La cinquième victime, L'invraisemblable vérité, et surtout L'invraisemblable vérité qui a eu un accueil, je dirais pas mitigé, mais carrément hostile à l'époque, aussi bien en France qu'en Amérique, hein, ça avait été un échec total. Au contraire, là, ça avait été tout à fait défendu par Rivette, entre autres, un excellent article de Rivette dans les cahiers, mettant en évidence la notion des traces chez Lang. Et dans ce sens-là, Lang, en effet, a été capital pour ces jeunes cinéastes. Il a été, si vous voulez, un modèle de ce qu'un metteur en scène qui n'abdique pas, mais qui, au contraire, approfondit à chaque œuvre les possibilités de l'expression cinématographique. Romère, de ce point de vue, a été très marqué par le formalisme de l'expressionnisme, d'où l'importance qu'il accordait à Murnau, qui était, et qui, je pense d'ailleurs, reste son cinéaste favori, mais aussi à Dreyer et des gens comme ça, enfin des gens très marqués sur l'écriture. Alors c'est vrai que la période allemande de Lang est une période marquée, c'est-à-dire que dans le sens même évident du terme, où dans M, on marque M.
Lang a plu à la Nouvelle Vague à la fois par son cinéma, l'actualité de celui-ci. Les thèmes de Lang sont d'ailleurs très contemporains. En 84, Moroder a sonorisé Metropolis avec les plus grandes stars du rock anglais. Cette nouvelle version de Metropolis a d'ailleurs rencontré un large succès. Bernard-Étienne Eisenschütz.
Quand on a vu les premières images de l'assassinat de Kennedy en 64, à une époque où on ne savait pas encore que Lang ne ferait plus de films, ça a été cet immeuble qui était totalement un immeuble langien, et ça a été ce fusil télescopique qui était totalement une arme langienne qu'on voit dans les premiers plans de Chasse à l'homme, et avec laquelle Walter Pigeon veut simplement abattre Hitler. Et on a retrouvé tout ça, et ensuite, quand on a vu les astronautes se poser sur la Lune, on a revu une femme sur la Lune, et quand on a vu ce que devenait l'Allemagne des années 70, bon, on a vu la même chose que ce qu'on voit dans ces hôtels vides, cette police qui continue de faire son travail, cette technologie, et cette toute-puissance des yeux de la télévision.
Le passage du muet au parlant est chez Lang très important. Dès son premier film parlant, M, il parvient à garder les caractéristiques de son cinéma muet tout en maîtrisant complètement la bande-son. Elle est en fait écrite en parallèle complète de la bande-image.
La relation entre Fritz Lang et Théa von Arbus a été une relation de collaboration, un mariage aussi, mais une collaboration qui a duré une douzaine d'années environ. La rencontre s'est faite au moment où Lang tournait ses premiers films et Théa von Arbus voyait ses premiers romans adaptés. Et donc la rencontre ne s'est pas faite sur un plan de recherche d'un art du cinéma immédiatement. Il n'y a pas eu au départ une rencontre sur une recherche de l'expressionnisme ou une recherche d'un cinéma qui serait supérieur au tout venant. Au contraire, ils se sont rencontrés à l'intérieur de ce cinéma commercial, de ce cinéma de grande consommation qui était florissant en Allemagne après la Première Guerre mondiale. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on a toujours reproché à Lang cette collaboration avec Théa von Arbus. On a dit Lang, c'était la rigueur, Lang, c'était la sévérité, la solidité artistique, la recherche artistique. Théa von Arbus, c'était le sentimentalisme allemand, l'eau de rose, le nationalisme, et finalement une évolution tout à fait logique vers le nazisme. Je pense que c'est pas exactement ça. Le premier film important qu'ils ont fait ensemble, enfin leur deuxième ou troisième collaboration, a été Les Trois Lumières, qui en effet était un film très ambitieux. Mais très ambitieux surtout par rapport à ce qu'ils avaient fait, très ambitieux à l'intérieur du cinéma allemand évidemment, mais ambitieux dans le sens non pas d'une recherche contemporaine, plastique ou narrative, c'était un film dont l'ambition était une ambition de retour au romantisme. Et romantisme que Lang attribuait lui à ses origines viennoises, il a toujours dit que Les Trois Lumières était son film le plus viennois, et romantisme qui était tout à fait dans le droit fil des préoccupations, des romans, etc. de Théa von Arbus. Et là-dessus, il y avait donc complète entente entre les deux. Et ce que Théa von Arbus a apporté à Lang dans Les Trois Lumières, c'est certes l'invention des péripéties, les obsessions, mais la rigueur de la construction, je ne suis pas sûr qu'elle y était déjà. En même temps, ces récits jouant et sur les grands mythes du romantisme, l'amour plus fort que la mort, la mort personnifiée, la caverne aux bougies, qui est quelque chose qu'on trouve, dans un conte de Grimm, plus dans tous les récits, dans toutes les nouvelles romantiques, et par ailleurs tout un stéréotype de l'exotisme et de l'histoire, qui était quelque chose qui n'était pas du tout d'une haute volée allemande, mais au contraire qui correspondait à tout un cinéma de l'exotisme, maîtresse du monde, qui se passait en Chine, etc. Donc l'épisode chinois renvoie au cinéma allemand d'exotisme chinois, l'épisode vénitien renvoie à tout un cinéma d'aventure vénitienne, et le troisième épisode, c'est évidemment l'exotisme des mille et une nuits, qui était un exotisme tout à fait début de siècle et pas seulement allemand. Donc il y a, dès ce premier film, chez Théa von Arbus, il y a déjà en tout cas une mise en forme des stéréotypes, des grandes structures de légende de la conscience ou de l'inconscient allemand.
Du hast aber einen schönen Ball. Wie heißt du denn?
Ed. Fred Beckmann.
Pour vous dire la vérité,
Fritz
moi,
Lang.
Oh, disons-nous, mon ami, mon bon ami Bertolt Brecht, nous n'avons jamais appris qu'est-ce que veut dire vraiment l'expressionnisme. Je crois que c'est un phénomène social. Après la Première Guerre mondiale, on a essayé de faire des choses sociales. On a peut-être, je ne suis pas sûr, pas pensé à l'esthétique. Alors, moi, j'ai fait plusieurs films. J'étais jeune metteur en scène et j'ai fait des films aventuriers, comme ci, comme ça. Mais je crois que le premier film que j'ai fait, qu'on a aimé dans tout le monde, je le peux dire maintenant, c'était Les Trois Lumières. Quand on l'a vu en Allemagne, ce n'était pas grand succès. Alors on l'a vendu à la France, et en France, on a vraiment rêvé de ce film. Les critiques étaient extraordinaires, et quand le film était revenu en Allemagne ou à Berlin, alors on a dit oui, c'est un grand succès. J'étais naturellement très content.
Le son, il va utiliser en effet le côté expressionniste, si on veut, ou expression du son, lui donner une importance qui renforce le décor visuel. Bon, par exemple, la première scène du Destin de Mabuse est de ce point de vue-là très précise. Enfin, c'est la scène ne fonctionne que sur le son. Et l'image, bon, se sent renforcée par le son. Mais je dirais que le son a presque une indépendance par rapport à l'image. Le son est un plus de l'image et non pas un complément de l'image. Cette tendance, Lang va la travailler, la garder tout le temps, tout en faisant dans la période américaine, justement, le gommage de tous les effets à caractère d'expression, si vous voulez. Pour pas trop employer le terme expressionniste.
Sur l'usage qu'il fait de la ligne, du plein, du vide, du blanc, du noir, de l'ombre, de la lumière.
Jean-Philippe Santucci, architecte.
Il est vraiment novateur, et si on parle de chef-d'œuvre pour ses films, c'est tout à fait justifié. D'autant plus que on peut dire que ces séquences, ou l'ensemble de ses plans, où il utilise où il manipule la ligne dans toutes ses positions, sauf l'oblique, hein, pas trop. Et la lumière, ça constitue, on a pu le dire, et c'est vrai, une sorte de bande sonore. Il y a un rythme, il y a un tempo, il y a un beat du blanc et du noir qui éclate, qui disparaît, et qui en fait un véritable rythme, une véritable... oui, plus un rythme qu'une mélodie. Hein, sont vraiment des sons. Et là, je crois qu'il a été novateur, certainement.
Ouais, au regard, il me semble que la période américaine montre moins d'indépendance de la bande-son, quand même, à la bande-image, même s'il l'a travaillé tout le temps. C'est beaucoup plus naturel.
Je ne suis pas d'accord. Quand on voit Cinquième Victime ou...
Je ne sais pas, Fury, par exemple, c'est pas...
Ah, Fury, si. Si, quand même. Si, ne serait-ce que les sons des radios, etc. Non, oh là... Il y a vraiment les sons rageurs et les sons contraires complètement neutres. Au contraire. Moi je suis pas d'accord. Je trouve qu'au contraire que les sons dans Fury sont passionnants.
Non, je dis pas qu'ils ne sont pas passionnants, mais par exemple, ou Le Secret derrière la porte, pareil. Moi, il me semble que c'est beaucoup moins indépendant que dans M, par exemple.
Peut-être. Mais c'est vrai que le son, vous savez, à partir de 1934. À partir de la domination des producteurs, il y a eu une volonté d'étouffer le son et d'en faire un instrument théâtral. Bon, ce sera Wells qui va essayer de rénover sur le son et de lui redonner une espèce d'autonomie. Mais je pense que Lang, quand même, de ce point de vue, a... Bon, par exemple, la scène du lynchage dans Fury, elle est tout à fait sonore. Hein. Et puis en plus, ce qui est très bien chez Lang, comme il joue tout le temps un plan contre un autre plan, c'est-à-dire que vous n'avez jamais de continuité dans le récit, mais toujours des ruptures, ça lui permet par exemple de passer de la montée colérique de la foule au froid des politiciens qui n'envoient pas la troupe contre la foule, parce qu'il y a bientôt les élections, etc. Donc chaque coup, vous avez Tox, cette espèce de son froid, au-delà de la montée émotionnelle du son dans l'autre. Non, non, au contraire. C'est très travaillé, mais justement, c'est gommé. C'est moins évident.
Keep out of this. There's no positive proof that the man you want to talk to is guilty. Or innocent either. The district attorney is checking on him now. But whichever he is, he's under the protection of the law. As long as I stand here, you can yell yourselves hoarse, but you won't see this man.
Then you won't stand there, Lord.
We'll move you.
Yeah.
Well, then I ought to tell you, men, the National Guard is on its way.
Want us to stop, sir. Telephone from the governor's office.
Stop? But Lopez, Walker, Johnson, all of you, go home. You're going to wind up being sorry for this. Think of your families.
You stick in with this kidnapper, Milt Grimes, and you'd better not come home tonight.
You elected me to do my duty, and I'm going to do it.
There's Popeye the Sheriff, man.
They're diving in over your heads, man. Listen to reason. Stop acting like a lot of hysterical... I'm warning you. Don't make me use force. You're not up against just us here. More deputies with tear gas and rifles. Hey! Hey, Taylor. Taylor, come here, will you? Hey, Taylor! 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 Tell the sheriff to pull my girl, will you? She's the one I wanted to call up. I just didn't want to get her mixed up in this thing, that's all. She can tell you who I am.
Get filing cabinets. Yes. File them up against that door.
Stop. Please stop.
Jailer. Jailer. Can anybody hear me? Let me out. I'll talk to him. Let me out. Give me a chance. Let me talk to him. Give me a chance, will you? Can anybody hear me?
Mon premier film parlant était M, Le Maudit. Et je crois de Le Maudit jusqu'au Féru, c'est seulement un pas. Parce que les deux films sont une, disons-nous, une critique sociale. Vous savez, Fury, c'est un film contre le lynching. Il fallait que j'étudie les mœurs et les gens, et les, disons encore une fois, les racines de la vie américaine. Et là, j'ai appris quelque chose. C'est une grande vérité. En Europe, spécialement en Allemagne, quand j'ai travaillé, le héros était toujours un surnom, le surnom de Nietzsche. Mais quand mon collaborateur Bartlett Cormack et moi, nous avons écrit Fury, je voulais que le héros doit être un avocat, parce que j'ai le pensée qu'il pourrait dire beaucoup de choses. Et on m'a dit, non, ne faites pas ça. Faites-le un simple homme du peuple pour que l'audience a la possibilité de s'identifier avec le héros. Thank you.
avec ma femme, Camille.
Enchanté, madame.
Fritz Lang, vérité.
Bonjour, monsieur.
C'est celui qui a fait le western avec Marlene Dietrich, qu'on a vu vendredi soir.
Oh oui, c'est formidable.
Moi, j'aime mieux M.
Le maudit?
Oui.
On l'a vu l'autre jour à la télévision. Moi, j'ai beaucoup aimé.
Merci bien. C'est bien de m'en.
Le passage de la période allemande à la période américaine est le passage le plus important de Lang. Il parvient à complètement se mouler dans le cinéma américain en gommant l'ensemble de ses effets.
À partir de l'époque américaine, Lang, pour des raisons politiques d'ailleurs, parce qu'il s'est rendu compte de ce que c'était que l'expressionnisme, ses conséquences directes politiques, c'est-à-dire la montée du nazisme, radicalise, et c'est rarissime dans l'histoire de l'art, c'est quelqu'un qui vraiment change son écriture pour des raisons idéologiques. Quand il arrive en Amérique, il épouse... l'idée de la démocratie américaine. Mais il l'épouse de façon très critique. C'est-à-dire que il joue cette démocratie en révélant tout le fascisme qu'elle cache en elle. Mais pour cela, il est obligé justement de travailler des effets gommés. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait plus justement de surcharge comme dans la période allemande, là où travailler les effets au maximum est totalement visible. Là, on rendait invisibles les effets, mais les effets sont tout autant là. Hein. Ils ont quand même des violences, c'est pas bon. Et ça va pas disparaître du jour au lendemain. Dans Fury, vous avez encore des effets expressionnistes. Dans J'ai le droit de vivre aussi. Non, je crois qu'il a complètement gommé les effets expressionnistes à partir des années 52-53. Il y a toujours. Il y a toujours un lampadaire qui brille sur le macadam. Mouillé, il y a toujours des effets comme ça d'ombre, de personnages, mais dans l'ensemble, même sur les éclairages, ça va changer beaucoup, profondément, les éclairages vont devenir apparemment plus neutres. La vraie sans la vérité est un travail sur, justement, une neutralité de tous les éléments, la lumière, le décor, le jeu d'acteur, un jeu d'acteur complètement anonyme, etc. Et d'ailleurs, c'est fait sur l'anonymat.
L'obsession de la loi, elle est évidente, l'obsession de la transgression, elle est évidente. Lang a écrit certains articles en Amérique sur la peine de mort. Ce sont les seuls cas où il a pris position sur des problèmes d'actualité, mais il était obsédé par la peine de mort. Et s'il était obsédé par la peine de mort, c'est parce qu'il était obsédé par le meurtre. Et parce que la question de la suppression de la vie, pour lui, était une question fondamentale et, en effet, obsessionnelle. Mais je ne pense pas que ça explique la transition. C'est une continuité. On voit la continuité. La transition, à vrai dire, il est très très difficile de trouver cette transition. Enfin, je dois dire que pour moi, c'est un mystère et c'est sûrement une des grandes grandes forces de Lang d'être arrivé à se métamorphoser aussi radicalement tout en restant aussi fondamentalement le même, c'est-à-dire un cinéaste total, un cinéaste qui concevait le film comme un objet total et non pas comme le simple exercice de filmage d'un scénario. C'est très très difficile de voir ce qui s'est passé dans ces années. À vrai dire, M est peut-être une clé. L'obsession du meurtre qui transparaît pour la première fois d'une manière aussi crue avec M, qui était lui aussi bien sûr un film dans l'air du temps. Il y avait eu beaucoup d'assassinats collectifs, il y a eu plusieurs procès, le film a été tourné avant l'arrestation mais est sorti après la fin du procès, ou juste avant la fin du procès de Curtin, qui était un des assassins dont on a prétendu qu'il s'était inspiré, mais il y a eu plusieurs assassins collectifs en Allemagne dans ces années 20, Harman et d'autres encore, certains qui n'ont pas été découverts. Donc cette obsession transparaît pour la première fois dans M.
Hier kommst du nicht mehr raus.
Aber meine Herren, ich bitte Sie, ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. Ich bitte Sie, lassen Sie mich doch frei. Das Ganze muss doch ein Irrtum sein. Ein Irrtum.
Oh nein, kein Irrtum. Ausgeschlossen. Das ist kein Irrtum.
Lang était contre la peine de mort car il pensait que c'était un but ultime de la justice. Et comme c'était un but ultime, elle devait demeurer inaccessible, cela pour assurer une recherche constante de la justice, une meilleure justice. Cette importance de la justice dans le cinéma de Lang se traduit par l'utilisation de thèmes comme le bien et le mal.
Je dirais pas bien et le mal, je dirais l'inverse. Je dirais que chez Lang, sa pensée est une pensée qui descend de Hegel et de Nietzsche. Et c'est au-delà du bien et du mal. En fait, Lang ne pose qu'un problème, c'est le problème de la justice, et qu'il pose de façon très précise en tant que subjectivité, c'est-à-dire, si on existe, on a le droit à l'existence, et on doit revendiquer ce droit. Donc, on doit exiger la justice de sa propre existence. Et à ce moment-là, en effet, ce déclenche les notions de bien et de mal. Mais par exemple, quand on voit Fury, donc, qui est son premier film américain, il est évident que dans Fury, le personnage passe au mal, si on veut, mais passe aussi au bien, dans le sens qu'il a raison de réclamer justice. Bon, le simple problème, c'est que Lang montre que le danger de ce système de la justice, qui est subjective, car finalement, on ne fait un procès que lorsqu'on estime avoir subi d'injustice. Donc si on estime avoir subi d'injustice, c'est qu'on réclame justement de la justice. Et si on réclame de la justice, on ne réclame pas de la justice, on réclame sa justice. Donc si on réclame sa justice, forcément, on subjectivise la justice et on la soumet à toutes les pulsions de vengeance, etc., dont le thème de la vengeance est extrêmement important chez Lang. Dans Fury, le personnage simplement exige la justice. Mais c'est une justice qui devient sa justice et qui à ce moment-là donc transforme tout. D'où l'importance chez Lang des procès. Enfin, je veux dire que c'est, je crois, le cinéaste qui a le plus traité le procès dans son œuvre. Il n'y a pour ainsi dire presque pas de film de Lang où il n'y a pas un procès. Ou en tout cas, s'il n'y a pas un procès, c'est une décision de justice, ça peut être directement la mort dans Les Trois Lumières, bon, puisque justice et mort vont de pair chez Lang, puisque la peine de mort, c'est quand même l'aboutissement, je dirais pas le but de la justice, mais en tout cas son aboutissement en ligne droite. Donc, on la trouve pour ainsi dire en permanence. Alors, en effet, les personnages sont au-delà du bien et du mal, à partir du moment où ils veulent aller au bout de la justice qu'ils réclament. Et quelquefois, donc, quand on voit les Mabuse, c'est des personnages romantiques qui sont en révolte totale contre nos sociétés qui refusent la justice. D'ailleurs, c'est tout à fait dit dans le dernier film de Lang, Les Milieux de Docteur Mabuse, où lorsque Mabuse s'explique, il dit « Je veux supprimer ce monde sans amour et sans justice ». Donc c'est en fait une révolte totale contre un univers qui a supprimé la justice, donc a supprimé l'idée de l'amour, etc. Chez Lang, le vrai débat n'est pas que l'on combatte pour la vie, le vrai débat c'est que l'on combat pour l'existence. Et, d'une certaine façon, On est prêt, quand je dis on est prêt, on fait le sacrifice de sa vie pour défendre son existence. C'est par exemple dans Fury tout à fait le cas. Le personnage préfère passer pour mort plutôt que de renoncer à sa vengeance qui justifierait son existence.
Furchtlos bleibt aber, so er muss, der Mann, einsam vor Gott. Es schützet die Einfalt ihn und keiner Waffen braucht's und keiner Listen, solange bis Gottes Fehl hilft.
Mais l'homme, quand il le faut, peut demeurer sans peur seul devant Dieu. Sa candeur le protège et il n'a besoin ni d'armes ni de ruses jusqu'à l'heure où l'absence de Dieu vient à son aide.
Très bien.
C'est de Handel, n'est-ce pas, Mr. Lang?
Oui, la vocation du poète. Le dernier vers est très obscur. Hölderlin avait écrit d'abord « Solange der Gott nicht da ist ».
Tant que Dieu ne fait pas défaut.
Et ensuite « Solange der Gott uns nahe ist ».
Tant que Dieu nous demeure proche.
Oui. Vous voyez, la rédaction du dernier vers contredit les deux autres. Ce n'est plus la présence de Dieu. C'est l'absence de Dieu qui rassure l'homme. C'est très étrange. Mais vrai.
On pourrait dire que Fury est presque un film sur l'Allemagne quand, au moment où Lang l'a quitté. En même temps, c'est un film totalement américain par tous ses aspects, y compris les formes que prend cette loi. Et dans son adaptation à l'Amérique, Lang a été obsédé par les formes que prenait cette loi, qui sont, comme vous savez, très différentes. Enfin, la justice américaine est très différente de la justice européenne. Elle est très... différents aspects. Bon, la justice de la frontière, la justice expéditive, qui a été traitée par Lang dans certains de ses films, dans ses westerns en particulier, mais aussi dans Fury, enfin la loi du Lynch. Et puis la justice, la législation, donc l'obsession pour les personnages qui sont piégés. Et enfin, la déclaration d'intention complètement pessimiste de Fury, malgré le happy end final.
Oh, carry me long. There's no more trouble for me. I'm gonna roam to a happy home where all the doggies am free. I've worked long in the field. I've handled many. Turn my eyes before I die and see the sugar cane grow.
Je ne sais pas si vous savez que j'avais fait la peinture ici à Paris avant la guerre. J'habitais au Montmartre et j'ai essayé de faire la peinture à Montparnasse. C'était 12-13 que j'ai vu le premier film ici, et que c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et je crois, je le dis souvent, je crois que le film, c'est l'art de notre siècle, et plus que ça, c'est l'art du peuple. C'est Paris qui m'a formé et qui a conduit mes premiers pas de metteur en scène.
Thank you.
revenant en Allemagne, finalement se ressent libre et essaye de faire la jonction entre l'écriture américaine, qu'il a quand même bien mise au point, et l'ancienne écriture allemande, puisqu'après tout, il reprend quand même deux sujets allemands. Il reprend un scénario écrit en 19 ou 18 et un troisième m'abuse, donc qui appartenait à l'Allemagne. Mais par exemple, quand on voit le docteur Mabuse, c'est malgré tout le cinéma américain qui l'emporte sur l'écriture. C'est cette espèce de neutralité, de décor complètement justement uniforme, cette sorte de, justement sur le son, de ton complètement rectotonome, sans variation. Un ton comme ça, monotone, qui donne de la force au film, avec évidemment des idées expressionnistes, mais complètement masquées, ou alors ouvertement affichées avec Cornelius, qui est le personnage justement de l'expressionnisme.
Et si l'architecture qu'il nous propose n'est pas novatrice, c'est simplement la reproduction de ce qui existe. Je pense à la réflexion que c'est volontaire qu'il était parfaitement au courant de ce qui se passait et que s'il n'a pas voulu le montrer, c'est sans doute pour ne pas trop distancier son sujet. Il voulait peut-être un peu l'écrire dans un quotidien que n'importe quel spectateur pouvait appréhender.
L'utilisation de l'architecture chez Lang est très importante. Elle s'explique sans doute par sa volonté de faire un art du peuple. Et cette importance de l'architecture est sans doute l'un des éléments qui a permis à Lang de le qualifier comme cinéaste expressionniste.
Dans la période allemande, il fait de ce décor un élément de blessure. On se heurte au décor, les décors agressent, on se blesse avec les décors. Donc les décors sont en triangulaire, violents et accentués en plus par la lumière. La lumière refaisant un décor dans le décor et donc accentuant les angles vifs. Dans la période américaine, justement, il va gommer cet aspect du décor et va le neutraliser. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous avez un décor, si vous prenez les derniers films, vous n'avez plus de décor blessant. Vous ne sentez plus les personnages coincés, se heurter, être piégés, être pris dans le décor, mais au contraire, un décor, comme si le décor n'avait plus de conséquences. Et ça devient un décor abstrait. Dans les années 50, là, le décor se gomme, lui aussi. Ce sera d'ailleurs la dernière chose dans les éléments d'écriture que Lang va gommer. Mais c'est très net, par exemple, dans le Tycho du Bengale, où on n'a plus que l'idée abstraite du décor qui blesse, c'est-à-dire sur les portes qui tombent, des choses comme ça. Mais dans l'ensemble, le décor tel qu'il est travaillé, c'est un décor plutôt neutre, plutôt indifférent. Et puis, malgré tout, alors ce décor indifférent n'est pas indifférent du tout, puisqu'il est travaillé sur sa splendeur, ou au contraire son délabrement, enfin, toutes les possibilités, je dirais, d'autant plus symboliques du décor, que justement le décor ne semble plus avoir de corps, de consistance et de poids. Le propre du décor chez Lang dans la première partie de son œuvre, justement, c'est un décor qui a un corps, ce que j'appelle la structure des angles vifs. Donc, il accentue l'exacerbération des personnages dans un monde hostile. Alors que dans la dernière partie, c'est un univers apparemment neutre, où les personnages sont apparemment libres, mais qui est en fait piège davantage que le faisait au départ. Mais de ce point de vue, on s'aperçoit que dans la période allemande, dans Les Trois Lumières, Lang avait déjà fait ça, puisque le second épisode des Trois Lumières, l'épisode vénitien, prouve que Lang avait déjà conçu un décor comme simple fond pour faire se dérouler une tragédie, donc comme fond abstrait. Et c'est ce qu'il va faire à la fin de sa carrière, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ça a déjà été conçu par lui. Alors c'est vrai qu'il aura mettra plus en évidence, dans la période allemande, le décor en tant que pesanteur et, je dirais presque, élément capital de l'image, élément premier de l'image, donc une mise en scène de la révolte des personnages contre les décors. Bon, dans Métropolis, c'est une telle évidence qu'on n'ose même pas, on n'ose même plus en parler. Et puis, à la fin de sa vie, il inversera, c'est-à-dire que ça sera plutôt le conflit entre les personnages et avec un décor apparemment neutre.
De Métropolis, que c'est un film, enfin futuriste, pas au sens de la peinture futuriste, mais un film ou prémonitoire ou montrant l'évolution sur le plan de l'architecture, l'évolution à laquelle pourrait s'engager la production architecturale. Et puis, je suis pas sûr que ce soit vrai, parce que quand même, il fait ce film dans une époque où il y a une floraison de mouvements extraordinaires. Bon, en Allemagne, il y a l'expressionnisme qui est encore bien vivant, mais il y a le constructivisme chez les Russes, il y a des gens comme Malevich, Kandinsky, il y a tout le... En 25, c'est le pavillon de l'esprit nouveau, de Corbu, il y a tout le béton armé, Perret, il y a bien sûr New York, que Lang a vu l'année précédente de ce film, et ce qu'il montre comme architecture, ce sont un peu des poncifs, ou en tout cas des choses qui existent au moment où il fait le film, et qui sont... pratiquement l'architecture officielle. Alors que l'architecture de recherche, qui est encore dans les cartons ou qui s'élabore au cours des expositions, n'est pas du tout représentée. Alors, tout de même, Lang sait ces choses-là. Et je crois que le jugement que je portais sur son architecture, qui était plutôt négatif, parce que je trouvais ça extrêmement pompier, pensif, je me demande si c'est pas volontaire de sa part, s'il n'a pas voulu... caricaturer ou en tout cas enfler à l'extrême ce qui est en train de se passer à l'époque où il fait ce film. Il nous montre New York telle qu'elle existe au moment où il fait le film. Il reprend un peu quelques croquis de Mendelssohn sur cette espèce de romantisme du béton, mais c'est tout à fait léger. À l'époque où il fait son film, il y a des choses bien plus fortes qui sont sorties. En 24, Mies van der Rohe fait un projet de gratte-ciel pour Berlin, pour la Friedrichstrasse. Et ce sont des gratte-ciels en verre, qui n'ont pas encore été dépassées à l'heure actuelle, au point de vue forme architecturale, élancement, beauté, pureté des formes. Or lui, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous sort Manhattan, et même Manhattan un peu vieux. Alors je comprends pas pourquoi il a pu dire qu'il a fait du cinéma, parce qu'il pourrait enfin faire l'architecture dont il rêvait. Par ailleurs, lorsqu'il nous montre des domaines architecturaux où la modernité n'a pas encore dit son mot, par exemple l'art religieux, l'église, et qu'est-ce qu'il montre? Une vieille Notre-Dame en carton-pâte avec des gargouilles à la Victor Hugo. C'est un peu nul, ça, comme lyrisme architectural ou comme invention. Est-ce que c'est pas simplement pour avoir une référence, une sorte de caution, qu'il parle de l'architecture? Parce que la démarche architecturale, en tant que recherche, elle est absente de Métropolis. Parce que tout ce qu'il nous montre existe déjà depuis longtemps. Et à l'époque où il fait ça, il y a des recherches qui vont infiniment plus loin, qui actuellement, dans les années 86-90, n'ont pas encore été dépassées.
Every time you say it is like the first time. My heart starts beating like I just run around the block. You know, those slippery little rugs are out. A guy could break his neck on those.
Mr. Wilson, you plan doing a lot of running around?
Yeah, after you.
The rugs are out.
And the twin beds, too.
Out like a light. Hey, I like peanuts, too.
I thought you hated them.
I did once.
What changed your mind?
I love you. You love peanuts. I love peanuts, too.
Well, I guess that wins.
It's raining. Do you feel swell against your face?
Tonight of all nights, it's gotta rain.
Don't talk about it.
What am I gonna do after you're gone?
Joe.
I'll be walking like this down the street. Where are you?
I'll be here.
Lang, quant à lui, et ce qu'on retrouve de son architecture, c'est la droite, l'horizontale, le statique, le monumental. Enfin, tout ce que l'architecture peut représenter comme symbolique de l'ordre, symbolique du pouvoir, symbolique de l'organisation de la vie sur la planète.
Mais c'est ce qui vous fait définir Lang comme un fasciste, puisque vous l'avez défini comme ça.
Oui, j'ai pas dit fasciste, j'ai dit facho. Ça casse un peu les angles. C'est difficile de savoir dans une œuvre d'art quelle est l'intention profonde. Lorsque l'artiste montre quelque chose, si un cinéaste montre un crime sexuel, ça ne veut pas dire forcément qu'il soit partisan du crime sexuel. S'il montre une organisation de type fascisant comme Lang dans Métropolis, ça ne veut pas dire forcément qu'il penche pour ses idées. Par contre, on sait que sa petite copine, elle, était membre du parti nazi. Alors, on peut se poser des questions.
En 1933, Goebbels a proposé à Lang de diriger le cinéma allemand, et le soir même, Lang avait passé la frontière.
Oui, est-ce que c'est pas parce qu'il sentait que son génie ou sa puissance créative, ou en tout cas sa puissance d'intervention, serait finalement bridée par une organisation qui entendait que tous les créateurs soient à la botte de la direction de la propagande et de l'idéologie nazie. Peut-être qu'il y a choc de deux volontés de puissance, et Lang n'était qu'un individu, il avait en face de lui un système, il valait mieux pour lui qu'il parte. Mais ça, c'est pas forcément parce qu'il a quitté l'Allemagne qu'il soit totalement étranger ou opposé aux thèses nazies. Enfin, quand même, son histoire prouve que oui, que effectivement. Mais si on le juge uniquement sur Métropolis, on est quand même en droit de se poser des questions. Sans doute, dans les années 50 ou 60, je crois que c'est dans les années 50, il a dit que la moitié de ce film n'était pas de lui, qu'il trouvait que la fin de Métropolis est nulle et inintéressante, qu'elle lui a été plus ou moins imposée. Enfin, il l'a quand même fait. Et il a quand même signé Métropolis. L'expressionnisme allemand, je ne me rappelle plus qui disait ça, mais l'expressionniste, a fait tout un véritable manifeste dans lequel il disait que ce qu'il fallait peindre maintenant, c'était la ville, et que le seul sujet intéressant était la ville, le grouillement des gens, l'éclatement des lumières, le mouvement, la vitesse, et que le vrai travail du créateur devait être centré sur le lieu même de l'expression humaine, qui est la ville. Ça vient après quand même l'impressionnisme, où au contraire, on file à la campagne, on file voir la lumière, les couleurs, les arbres, tout le jeu de la nature avec un N, de la nature naturante. Alors, je pense qu'il est dans ce courant, il est dans cette histoire, il est dans cette époque. Et c'est pas étonnant qu'il ait envie de filmer la ville. Par ailleurs, en 26, la 14-18 n'est pas très loin. Et les villes sont détruites, les villes sont pas mal abîmées. Donc, la ville, c'est quand même le foyer où l'humanité se reconstruit, du moins en Europe du Nord. Alors, je pense que il est quand même tributaire un peu de ce courant, de cette époque.
Monsieur Lang, je viens vous dire au revoir.
Au revoir. Qu'est-ce que vous ferez ?
Le point.
Je vais retourner à Rome. Je vais finir d'écrire ma pièce de théâtre.
Bon.
Et vous?
Je termine le film. Il faut toujours terminer qu'est-ce qu'on a commencé.
Quel plan vous faites, là?
Le premier regard d'Ulysse quand il revoit sa patrie.
Ulysse!
Ulysse!
Ithaque.
Alors?
Au revoir, monsieur Lang.
Au revoir. À bientôt, j'espère.
Ulysse, vers la mer.
Ulysse, verso il mare.
Monsieur Lang, on est prêt.
Merci.
Silence, on tourne.
Silenzio si gira. Silenzio.
Caméra.
Moteur.
Motore. Partito.
Jack.
Odissea 14702 prima.
Avanti.
Azione.
Fritz Lang, L'Homme des Passages, est une émission proposée par Bertrand Delay, Annie Flavel, Francis Malval. Avec la participation de Jean Douché, Bernard-Étienne Eisenschitz, Jean-Philippe Santucci et la voix de Fritz Lang.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 15 mai 1987. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.